Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Il a convaincu deux présidents, Trump et Bolsonaro. Il a fait venir un troisième dans son bureau, Macron. Il a pris le contre-pied des autres scientifiques et des autorités de santé sur à peu près tous les aspects de la crise du Covid. Les études randomisées, les remèdes, le confinement, les masques, les vaccins. Il est aujourd'hui très seul, mais non sans soutien populaire et toujours sûr de son fait. Voici donc quelques clé du mystère Raoult dans un livre-enquête signé Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin. Bonjour.
Bonjour.
Raoult, une folie française chez Gallimard, ça n'est pas un pamphlet, pas non plus un livre scientifique, c'est un récit de crise et un portrait nourri aux meilleures sources, dont Didier Raoult, qui vous a ouvert les portes de son IHU. C'est comment ? Ça ressemble à quoi ?
L'IHU, c'est... D'abord, un endroit qui a été vanté avant son ouverture comme étant un temple du microbe. Enfin, c'est vrai qu'on s'attendait à rentrer pratiquement à la NASA, quoi. Non, c'est il y a effectivement des labos de haute sécurité dont Didier Raoult est très fier, ouais, qu'on a visité, etc. Et au premier étage, plein de gens qui viennent se faire soigner ou qui viennent se faire tester et qui, pour la plupart, tous même portent des masques, ce qui n'est pas forcément le cas aux étages.
Alors, donc dans les étages, oui, dans les bureaux et là où Didier Raoult a son bureau, oui, c'est beaucoup plus.
Il y a du gel partout. Il a toujours cru que la transmission du virus se faisait davantage par les mains. Des masques beaucoup moins, surtout c'est pas du tout aéré, c'est vrai que ce sont des lieux un peu aveugles où les bureaux sont assez serrés et effectivement le masque n'est pas la règle parce qu'il a toujours pensé que la contamination par aérosol n'était pas la principale.
Voilà, je parle de ça, voilà, ça ressemble à un petit bout de lorgnette, mais il se trouve que l'Express a révélé hier que 7 personnes avaient été contaminées en 15 jours à l'IHU, dont un praticien hospitalisé et un technicien placé en réanimation, et l'Express explique que les masques n'étaient pas vraiment portés, les gestes barrières pas tellement respectés dans l'entourage de Raoult, c'est ce que vous avez vu ?
Oui, on nous a reçus dans une petite salle à manger où on avait beaucoup de... C'est vrai qu'elle était aveugle, il y avait un distributeur de...
Enfin, c'était variable, certains le portaient et d'autres non.
Est-ce que Didier
Raoult... En même temps qu'il y a un cluster dans un hôpital, c'est pas non plus forcément totalement exceptionnel,
oui,
c'est arrivé ailleurs.
Oui, sauf que c'est à l'étage administratif, enfin celui de la direction de l'IHU. Est-ce que Didier Raoult et son équipe sont vaccinés ? L'Express racontait hier que certains de ses collaborateurs s'étaient fait vacciner en cachette pendant que le patron était parti au Sénégal.
Le papier de l'Express, c'est quand même beaucoup de propos anonymes. Nous, c'est justement, on a voulu faire tout le contraire dans notre livre, c'est-à-dire vraiment recroiser et croiser des sources. Mais c'est vrai que Didier Raoult dit que c'est une question de vie privée pour lui, donc il n'a jamais répondu.
Il n'a jamais répondu sur la vaccination.
Non, mais en général, quand on ne répond pas sur la vaccination, c'est qu'on a peur aussi de perdre des fans. J'ai remarqué souvent ça, parce qu'après tout, prendre de la chloroquine, ça pourrait relever de la vie privée. Là, il n'y avait aucun problème pour dire que beaucoup en prenaient et donnaient des noms. En revanche, effectivement, sur le vaccin, il dit « ça me regarde, c'est ma vie privée ».
Alors, Didier Raoult, c'est difficile de raconter son histoire, de faire son portrait sans rentrer dans des questions de psychologie. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, « Une folie française ». Didier Raoult lui-même utilise souvent cette expression. Il est fou de faire une alerte mondiale parce que 3 Chinois meurent. Il est fou de considérer l'hydroxychloroquine dangereuse, etc. Raoult, qui n'est pas homme à se renier ou à admettre une erreur de jugement, quitte à humilier ceux qui l'ont aidé. L'une des scènes que vous décrivez avec le professeur Delfrécy rabroué dans son bureau en présence d'Emmanuel Macron, cette scène est hallucinante.
Oui, on se souvient beaucoup de BFM tournant en boucle et des chaînes d'infos en continu qui montraient des ombres sur le toit de l'IHU. On ne savait pas très bien ce qui s'était passé dans ce bureau. Mais en fait, ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire que d'abord, Emmanuel Macron a été obligé de convaincre Jean-François Delfrécy, le président du comité scientifique, de venir. Autant il n'était pas hostile au départ à Didier Raoult, il l'a même fait rentrer dans le conseil, mais autant il pensait que cette visite n'était pas du meilleur goût. C'est-à-dire que ça risquait de légitimer un traitement qui n'était pas testé par des études randomisées. Et ça se passe pas bien parce que d'abord Didier Raoult parle tout le temps et puis c'est vrai qu'il humilie et qu'il reprend à plusieurs reprises Jean-François Delfrécy. Non Jean-François, tu ne peux pas dire ça. Non Jean-François, tu te trompes. Et le président reste muet.
Voilà. Et sur l'accrochage que vous rapportez, c'est sur les études randomisées. C'est-à-dire que Delfrécy...
Le paradoxe, c'est que Jean-François Delfrécy, à l'époque, était encore au conseil d'administration de l'Institut Didier Raoult. Que c'est lui aussi
qui lui a fait
soutenu,
donner,
qui l'a soutenu, en tout cas, quand il a eu le Grand Prix de l'INSERM, qui est une des plus hautes distinctions scientifiques françaises. Et c'est ça aussi qui nous a intéressé de raconter, c'est comment ce microbiologiste qu'on disait nobelisable, qui a, c'est vrai, à son actif tout un tas de découvertes, etc., va au moment de l'épidémie, alors que ça devait être son moment, qu'il avait son centre spécialisé dans les infections, etc., va adopter cette posture. C'est ça qui, et c'est vrai que pour le comprendre, on est obligé, plus que pour d'autres histoires, de raconter le passé, de dire à Raoul comment il a été façonné, quels sont qu'est-ce qu'il a fondé et qu'est-ce qui fonde ce caractère très particulier.
Caractère très indépendant, fierté d'une lignée familiale qu'on ne va pas raconter ici en détail, faute de place, refus obstiné de se couler dans le moule, avec très vite, dès le début de la crise, un discours anti-élite qui séduit, qui le rend populaire, mais qui s'accompagne, et ça vous le montrez fort bien, d'une soif de reconnaissance éperdue par ces mêmes élites. Il cherche les marques de sympathie ou de soutien des grands patrons, des intellectuels, et il en est très flatté.
Oui, il accroche les portraits qu'il a fait avec tous les présidents de la République française dans son bureau. Il cherche la notoriété et d'ailleurs, avant d'autres, il comprend qu'il faut publier. Sinon, c'est la formule anglaise publish or perish, c'est-à-dire que sinon on meurt.
Publier ou périr.
Voilà, il cherche la reconnaissance, les décorations aussi. S'il décroche le portrait qu'il a fait avec Emmanuel Macron de son bureau, c'est parce qu'il n'a pas eu, lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur, une médaille comme son ennemi Karine Lacombe. Donc oui, il est très sensible à ça.
Il est très sensible à ça. Aujourd'hui, tous ces soutiens-là se sont éloignés ou ont disparu. Restent les complotistes anti-masques ou anti-vaccins. Il ne le dira jamais, mais il est sans doute blessé ou par cette solitude, Marie-France Etchegoin.
Il dit qu'il ne la voit pas. Après, je ne crois pas qu'il reste que les complotistes et les anti-vaccins. Moi, je suis très frappée des réactions qu'on voit au livre, sur le livre, avec des gens qui ne sont pas forcément, enfin, en tout cas, qui ne se vivent pas comme complotistes et qui ont des arguments. C'est ça qui est très troublant. Mais c'est vrai que Raoult, il la joue anti-élite. En même temps, il est très élitiste. Hein. Il a toujours dit qu'il était le meilleur. Il n'a que mépris pour les non-spécialistes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est assez difficile pour lui de voir cette espèce de réaction totalement irrationnelle autour de lui. On le voit aussi, certains nous reprochent des deux côtés d'ailleurs, c'est très intéressant. Les anti-Raoult disent il ne faut pas raconter sa vie parce que c'est humaniser Raoult, enfin, c'est quand même pas un monstre.
Vous n'avez pas tapé assez fort.
À travers, justement, on comprend à travers sa personnalité et ce qu'il a cristallisé aussi tout un tas de mouvements qui travaillent l'opinion et bien avant le Covid. Donc c'est très intéressant de voir ce cocktail explosif entre une situation de crise et ce personnage si particulier. Voilà, c'est le seul phénomène en France, c'est le seul cas. Il n'y a pas eu d'autres cas comme ça. Du côté, en revanche, des pro-Raoult, il ne faut absolument pas toucher la statue.
Ce livre, votre livre n'est pas un pamphlet et je pense que c'est ce qui fait justement son intérêt. Et, les camps les plus opposés pourront y trouver des informations et de l'intérêt. Est-ce qu'il a pris plaisir à vous raconter sa vie, à présenter la face la plus romanesque de son personnage, Ariane Chemin?
Quand on a terminé notre long entretien, il a dit, on l'a remercié de nous avoir accordé du temps, il a dit, vous savez que j'aime tellement parler de moi, en riant, il se moque lui-même. Hein. Ça c'est vrai que je pense que l'idée de s'inscrire dans une geste, dans une histoire, aussi bien littéraire, scientifique, cette passion qu'il a pour la généalogie, cet art qu'il a de se trouver des ancêtres lointains qui le rattachent à l'histoire française, ça c'est très important pour lui.
C'est très important, quitte aussi à enjoliver un peu son histoire, parce qu'il n'a pas parcouru le monde pendant 2 ans sur un rafio, mais quelques mois sur un paquebot de luxe, hein, aussi, par exemple.
Oui, ça avait aussi sculpté sa légende, hein. On imaginait, en plus, avec son look une espèce de pirate, de loup des mers, partant sur un vieux cargo mazouté, pendant sa période rebelle, il a eu une jeunesse et une adolescence très tourmentée, il nous a même même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide.
Et il a fait médecine sur le tard.
Et il a fait médecine sur le tard. C'était pas sa vocation. Au départ, il voulait être écrivain. Il était DJ dans une boîte montée avec un copain. Enfin bon. Mais il nous a fini par nous dire qu'effectivement, c'était sur un paquebot de croisière qui s'était engagé pendant 6 mois.
Et il a bien, aujourd'hui, ce dernier détail des informations qu'il y a dans le livre, il a bien un buste à son effigie chez lui.
Oui, ça c'était effectivement, il a un buste à son effigie, une décoration là aussi totalement originale et kitsch. C'est Didier Raoult, des colonnades, des mosaïques, sa passion pour l'antiquité. C'est absolument ça, pas du tout dans le bon goût bourgeois, on va dire, mais il s'en fiche éperdument.
Raoult, une folie française chez Gallimard, Ariane Chemin, Marie-France Etchegouin. Voilà un tout petit aperçu des informations et du récit de cette folie, comme vous dites. Merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.